Donc la semaine dernière, pendant l'absence de Pierre, qui est absent pendant 3 semaines, on a commencé l'étude du livre de Ruth. Donc cette semaine, on va continuer. Donc la semaine dernière, on a regardé le chapitre 1, cette semaine, le chapitre 2. Il y a 4 chapitres dans Ruth, j'espère qu'on aura le temps de les voir tous avant le retour de Pierre. On a chanté tout à l'heure un chant « Vous qui avez soif ». Puis qui disait dans le refrain « Viens Seigneur Jésus ». On voit Ruth et Noémie, là je vais résumer un petit peu le chapitre 1. Ruth et Noémie sont revenues à Bethléem et là vraiment ce dont elles ont besoin c'est d'un rédempteur. C'est comme nous on a besoin du Seigneur Jésus. Je vais résumer un peu le chapitre 1. Donc au chapitre 1 on a vu qu'il y avait une famille qui habitait à Bethléem de Juda. En hébreu, ça veut dire la maison du pain au pays de la louange. Et cette famille, c'était Élimélec, mon Dieu et roi, Noémie, ma grâce, Malon et Kilion. Et comme il y a eu une famille, cette famille est partie à Moab. Et là, les choses ont commencé à se gâter. D'abord, Élimélec est mort. Et puis Ruth a décidé de rester avec ses 2 fils. Et puis elle a accepté que ses 2 filles se marient avec des Moabites. On a vu que c'était la conséquence du fait qu'ils soient à Moab. Et puis, Malon est mort. Et puis, Kilion est mort. Et Ruth s'est retrouvée toute seule avec ses 2 belles-filles. Elle a appris que la famine était finie. Donc, elle a décidé de revenir à Bethléem. Elle a essayé de décourager ses 2 belles-filles de la suivre. Orpa, qui était la femme de Kilion, a choisi de rester à Moab. Et Ruth, par contre, a fait une magnifique déclaration de foi et elle a choisi de partir à Bethléem avec Noémie. Malgré le témoignage qu'elle avait eu sur Dieu, d'une famille qui était partie, en fait, de Juda et où tout le monde était mort, elle a choisi de faire confiance et elle a dit à Noémie, ton Dieu sera mon Dieu. Et là où tu mourras, je mourrai. Donc elle a choisi de suivre le Dieu d'Israël par la foi. On a vu que Noémie et Ruth sont arrivées à Bethléem. Et quand Noémie est arrivée, les gens l'ont reconnue. Elle a dit « Non, non, m'appelez plus Noémie, Noémie, ma grâce. Appelez-moi Mara, qui veut dire amère. » Noémie n'était pas reconnaissante. Elle était vraiment dans l'idée, elle dit « Dieu m'a fait du mal. Il s'est pas occupé de moi. » Mais elle reconnaît quand même que au moment où elle revient, elle dit maintenant je suis vide, je suis amère, je suis pauvre. Elle reconnaît qu'en fait c'est quand elle est partie qu'elle était riche. Alors que quand ils sont partis, c'était justement parce qu'il y avait la famine. Donc Noémie, à ce moment on arrive à la fin du chapitre 1, et Noémie dit qu'elle est vide, elle est pauvre. Elle prend même pas en compte le fait qu'elle est revenue avec Ruth quand même, elle est pas toute seule. Et pourtant, on va voir que Dieu va la bénir par l'intermédiaire de Ruth. Alors qu'elle est revenue avec une Moabite qui était vraiment pas considérée en Israël, on aurait pu croire même que c'était peut-être une malédiction qu'elle revienne avec une Moabite. En fait, c'est par l'intermédiaire de Ruth et de la foi de Ruth que Noémie va être bénie. Ça nous amène à penser, nous, par rapport à notre situation aujourd'hui. Quel est notre témoignage dans le monde? Est-ce qu'on a un témoignage d'amertume ou est-ce qu'on a un témoignage de reconnaissance? Est-ce qu'on a un témoignage d'amertume comme Noémie? Oh, je suis revenu à l'église, mais dis donc, le Seigneur, il m'a pas aidé, hein. Dis donc, j'ai eu du mal, là, hein. Ou est-ce qu'on a un témoignage de reconnaissance de Ruth qui a jamais été à Bethléem? Elle a tout perdu aussi. Mais elle a un état de cœur qui est différent. Parce qu'elle aussi, elle a perdu son mari, elle a perdu son beau-frère, elle a perdu son beau-père. Elle a laissé ses parents derrière. Elle est dans un pays qu'elle connaît pas. Elle a même peut-être peu de chances de trouver un mari dans ce pays-là. Et pourtant, elle est dans un état de reconnaissance. Et elle a choisi de suivre Dieu et de mettre sa foi en Dieu. C'est très important pour nous d'être dans un état de reconnaissance. Et vraiment, quand on regarde dans les épîtres de Paul, sans cesse, il nous parle, il y a peut-être pas d'autres endroits dans la Bible où on parle autant d'actions de grâce. Paul nous dit, faites tout par action de grâce. Remerciez Dieu en tout temps. Moi, c'est mon expérience que souvent, quand je suis dans la tentation du péché, j'ai pas trouvé grand-chose d'autre qui pouvait vraiment m'aider que de remercier le Seigneur. Encore une fois, la Bible nous dit « Comptez les bénédictions. Comptez vos bénédictions, les bénédictions que Dieu vous dit. » Parce que quand vous êtes dans le péché, souvent, c'est quand vous êtes dans la tentation du péché, c'est que vous êtes dans un état de cœur où vous vous dites « Il me manque quelque chose là. Ce truc-là, si je l'avais, ce serait quand même mieux. » Mais si vous comptez vos bénédictions et que vous remerciez Dieu dans votre cœur, si vous louez Dieu dans votre cœur, vous verrez que vous êtes déjà plein. Si vous êtes dans la reconnaissance, c'est là que vous allez être protégé contre la tentation du péché. On va voir au chapitre 2 que la foi de Ruth va complètement renverser la situation. La situation actuelle, elles sont toutes les deux, elles sont veuves, elles sont pauvres. Noémie n'a plus aucun espoir d'avoir de descendance. Ruth est étrangère en pays étranger. Elles ne peuvent pas tomber plus bas. Et pourtant, la foi de Ruth va changer la donne. Je vais lire le début du chapitre 2. Noémie, alors c'est à la page 275 dans les Bibles à la colombe. Noémie avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec et qui se nommait Boaz ou Boaz dans certaines Bibles. Ruth, la Moabite, dit à Noémie « Je vais aller au champ pour glaner des épis derrière celui dont j'obtiendrai la faveur. » Et elle lui dit « Va, ma fille. » Elle partit et s'en vint glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Alors je vais revenir un petit peu sur ce que c'est que le glanage. C'est plus une tradition qu'on a aujourd'hui. C'est une tradition c'est une loi même qui avait été instaurée dans l'Ancien Testament. Il y a trois références dans le Lévitique et dans le Deutéronome. On voit dans Lévitique 19, page 122. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Et puis il y a la même chose pour la vigne. Et puis dans Lévitique 23-22, quand vous ferez la moisson de votre terre, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux malheureux et à l'immigrant. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et puis encore une fois, dans le Deutéronome 24, 17-21, tu ne porteras pas atteinte aux droits de l'immigrant et de l'orphelin, et tu ne prendras pas en gage le vêtement de la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a libéré. C'est pourquoi je te donne cet ordre à mettre en pratique. Quand tu feras la moisson de ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras pas la prendre. Elle sera pour l'immigrant, pour l'orphelin, et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans toute l'œuvre de tes mains. C'est une loi que Dieu avait instaurée. Elle est super, cette loi. Parce qu'il n'y a pas besoin du RMI ou des ascédiques ou quoi. C'est une loi où les pauvres, les veuves, les orphelins et les immigrants peuvent avoir de quoi vivre, mais sans qu'on leur donne à rien faire, en fait. C'est eux qui doivent quand même aller dans le champ et travailler à ramasser le grain. Seulement, Dieu a dit, les angles du champ, vous les moissonnerez pas. Vous faites un cercle. Et quand vous passez qu'une seule fois. Si vous ramassez quelque chose, s'il reste des épis là où vous avez passé la faux, tant pis, vous continuez. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on avait été se balader c'était avec qui à l'époque? C'était avec Jenny, puis il y avait Marc et Mina. Il y avait peut-être d'autres personnes, je sais plus. On était allé se balader du côté de comment ça s'appelle, du lac de Sainte-Croix. Il y a des magnifiques champs de lavande. Et à cette époque-là, à peu près vers fin juillet, début août, c'est l'époque de la récolte de la lavande. Donc ils passent des espèces de tracteurs avec des systèmes pour récolter la lavande, mais quand ils passent, il en reste toujours derrière. Il en reste pas mal même. Mais ils repassent pas une deuxième fois parce que ça vaudrait pas le coup en fait. Les machines, une fois qu'elles sont passées, si elles ont pas réussi à récolter, c'est que la lavande est trop basse ou que les tiges sont pas assez solides, je pense. Et du coup, bah ça sert à rien, il faudrait le faire à la main, ça prendrait trop de temps. Donc du coup, on y avait été et puis on avait demandé au fermier si on pouvait ramasser la lavande. Alors, on s'était fait des gerbes énormes parce qu'il avait dit oui, pas de problème, vous pouvez ramasser. Mais c'était quand même du travail, on avait passé pas mal de temps à ramasser à la main les brins de lavande. Et donc le glanage, c'est une loi que Dieu avait instaurée pour que les pauvres, les veuves, les immigrants, les orphelins puissent subsister, mais en faisant quand même un travail, même s'ils possédaient pas de terre. En l'occurrence, Ruth a probablement entendu parler de cette loi, de cette tradition, et comme elle est veuve et étrangère, elle a le droit d'aller glaner dans le champ. Je ne sais pas si à cette époque-là, c'était vraiment respecté, parce qu'il faut se rappeler quand même que ça se passe à l'époque des juges. L'époque des juges, c'est vraiment l'époque où chacun faisait ce qu'il voulait. Donc je pense que si elle n'avait pas eu de chance, entre guillemets, puisqu'elle est guidée par Dieu, elle aurait pu tomber dans un champ où on l'aurait très mal accueillie, puisque tout le monde ne respectait pas les lois que Dieu avait données. Je voudrais suggérer aussi le fait que Noémie n'était probablement pas pauvre. Parce qu'en fait, on va voir un petit peu plus tard, au chapitre 4, qu'il va être proposé de racheter ses biens, de racheter ses terres. Donc, probablement, elle avait des champs. Seulement, ils viennent de rentrer. Ils sont rentrés à Bethléem au début de la moisson. Évidemment, les champs, ça fait 10 ans que Noémie est partie. Ça fait 10 ans que personne n'a rien semé dans ces champs. Donc, il n'y a rien à récolter. Même si elle n'est pas pauvre, il n'y a rien à récolter. Nous aussi, quand on revient à Dieu, c'est une bonne chose, mais si on n'a rien semé, il ne faut pas s'attendre à récolter des fruits. Il va falloir ressemer. Il va falloir replanter. Il va falloir se remettre dans la parole de Dieu pour pouvoir récolter à la saison suivante. Si on ne sème pas, il ne faut pas s'attendre à récolter du fruit quand on revient. Donc Ruth décide d'aller glaner, elle fait confiance, et au verset 3, on nous dit « Il se trouva que la pièce de terre appartenait à Boaz de la famille d'Élimélec. » C'est pas par hasard, hein, parce que même avant qu'on nous dise qu'elle allait glaner, au début du verset 2, l'auteur du livre nous a bien précisé que « Ah tiens, mais il y a un parent du mari de Noémie » qui était puissant et riche et qui s'appelait Boaz. Boaz, ça veut dire qui se tient avec force. Boaz, on le verra, est devenu le grand-père de David, l'arrière-grand-père de Salomon, et Salomon était tellement impressionné par son arrière-grand-père qu'il avait appelé une des colonnes du temple qu'il a fait construire du nom de Boaz. Les deux colonnes qui étaient à l'entrée du temple avaient des noms, il y en a une des deux qui s'appelait Boaz, qui se tenait avec force. Et on va voir que Boaz, c'est une image pour nous de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est aussi le pilier du temple pour nous. Pour nous, c'est chacun de nous qui sommes le temple, et Jésus est le pilier. Et Jésus se tient avec force. Et on va voir à quel point Boaz va être vraiment une représentation de Jésus-Christ et comment ça peut nous parler par rapport à notre relation avec Jésus-Christ. Donc pour l'instant, Boaz, il est présenté comme un parent d'Élimélec. Élimélec, vous vous rappelez d'ailleurs, mon Dieu est roi. Boaz, c'est un parent de mon Dieu est roi. Et à partir de la fin du chapitre 2, en fait, on le présentera aussi comme un rédempteur. On voit que Ruth part glaner, elle demande à sa belle-mère l'autorisation pour y aller. Elle a deux grandes qualités, Ruth. C'est la foi et la soumission. La soumission, c'est pas une mauvaise chose. Et on voit que Ruth, à chaque fois, au cours de ce livre, elle va être soumise à chaque personne qu'elle rencontre. C'est-à-dire qu'elle se met pas au-dessus. Elle considère que sa place est en dessous, et elle laisse chaque personne l'élever quand elle rencontre des gens. Et donc elle demande à, elle demande à Noémie d'y aller. Donc Ruth part glaner, et je vais lire à partir du verset 4. « Voici que Boaz vint de Bethléem et dit au moissonneur « Que l'Éternel soit avec vous !» Et ils répondirent « Que l'Éternel te bénisse !» C'est bien ça. On voit que Boaz est un homme de Dieu. La première chose qu'il dit à ses serviteurs, c'est « Que l'Éternel soit avec vous !» Et puis on voit aussi que ses serviteurs l'apprécient. Parce que c'est la tradition au Moyen-Orient de répondre avec la même chose. On voit encore les salutations en arabe, par exemple. On dit « Salam alaikum, alaikum salam ». Mais là, ils répondent pas « Que l'Éternel soit avec toi aussi ». Ils disent « Que l'Éternel te bénisse ». Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui souhaitent bénir leur employeur. Là, Boaz, il est vraiment aimé de ses serviteurs. Ses serviteurs lui disent « Que l'Éternel te bénisse ». Pourtant, il est déjà béni. Il est puissant, il est fort. Et Boaz dit à son serviteur, qui était chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, répondit, « C'est la jeune Moabite qui est revenue avec Noémie de la campagne de Moab. » Elle a dit, « Je vais glaner, ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis qu'elle est venue ce matin, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est assise qu'un moment à la maison. Donc là, on voit que tout de suite, Boaz est arrivé dans le champ. Il y a probablement pas mal de gens qui sont en train de travailler, mais là, il a vu Ruth, il s'est dit « Oh là, c'est qui celle-là ?» Il y a quelque chose qui se passe là. Boaz s'intéresse à Ruth. Et puis la première chose qu'il va apprendre, c'est que c'est Ruth, qu'elle est revenue de Moab et qu'elle travaille dur. Depuis ce matin, elle est là, elle ne s'est même pas assise pour se reposer. Je continue, Boaz va voir Ruth. Boaz dit à Ruth, « Écoute bien, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas non plus d'ici et attache-toi à mes servantes. » Retenez bien ça. « Attache-toi à mes servantes. » Donc il lui dit, « Reste dans mon champ, c'est pas la peine d'aller regarder ailleurs. » Tu auras largement de quoi glaner ici, et attache-toi à mes servantes. Aie les yeux sur le champ qu'on moissonne, et tu iras derrière elle. Voici, j'ai ordonné au serviteur de ne pas te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras aux cruches, et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Là, vraiment, on voit que Boaz, il a choisi de bénir Ruth. Ruth est venue parce qu'elle a le droit, par la loi qui a été donnée par Dieu, de récolter ce qu'il y a par terre. Et Boaz lui dit, va avec mes servantes. Elles sont en train de moissonner. Tu vas avec elles, tu seras tranquille. Mes serviteurs ne te toucheront pas. On peut penser que Ruth, qui est étrangère, qui a priori est plutôt pas moche, puisqu'il l'a repérée tout de suite, et qui en plus est veuve, on peut penser qu'il y a peut-être des serviteurs qui sont intéressés. Il a dit à ses serviteurs, vous ne la touchez pas. Laissez-la aller avec les servantes. Et en plus, si tu as soif, tu pourras profiter de l'eau que les serviteurs ont été puisée. Alors elle tomba en se prosternant la face jusqu'à terre. Et elle lui dit, comment ai-je obtenu ta faveur pour être reconnue, moi qui ne suis qu'une inconnue ou qu'une étrangère? Encore une fois, voilà, on voit Ruth se prosterne, elle est dans la soumission, elle est dans l'humilité. Elle sait que elle n'est pas dans une position de force ici, elle est dans une position où elle est venue pour glaner, pour récupérer les restes. Et puis elle reconnaît que ce que Boaz fait pour elle, c'est de la grâce. Elle le reconnaît parce qu'elle, elle est dans une optique de foi. Elle vient par la foi et elle reconnaît que les actions de Boaz sont des actions de grâce, il va plus loin que ce que la loi lui demande de faire. Et puis elle lui rappelle qu'elle est moabite, au cas où elle ne le saurait pas, elle est très très bien tournée sa phrase, elle dit, tu sais, moi je suis moabite et je reconnais que tu es gracieux envers moi et comment ça se fait ? En une seule phrase, elle arrive à mettre tout ça. Et il lui répond, on m'a raconté en détail tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as abandonné ton père, ta mère et ton pays natal pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. La question, c'était, comment ai-je obtenu ta faveur? Pourquoi? Et il lui dit, parce que je sais. Je sais qui tu es, j'ai entendu parler de toi. Je sais que tu es ici par la foi, parce que tu as tout laissé derrière toi et que tu as choisi de faire confiance à Dieu. Et Boaz, qui est un homme de Dieu, reconnaît, il sait voir où est la foi. Et il reconnaît que Ruth a choisi l'Éternel comme son Dieu, parce qu'il dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. Il dit, c'est pas que tu as choisi de suivre Noémie parce que tu pensais que ça allait te rapporter quelque chose. Je reconnais que tu as fait confiance à Dieu. Et j'ai grâce envers toi parce que je reconnais que tu as la foi. Et puis au verset 13, elle lui dit, « J'obtiens donc ta faveur, mon Seigneur, tu m'as consolé, tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant moi, je ne suis même pas comme l'une de tes servantes. » Elle était venue que pour glaner, et elle reconnaît la grâce que Boaz lui fait, elle dit, « T'as parlé à mon cœur. » Au moment du repas, donc Ruth retourne travailler, au moment du repas, Boaz lui dit, « Approche, mange du pain, trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs et lui tendit du grain rôti. Il lui tendit du grain rôti. Elle mangea, se rassasia et garda le reste. Donc non seulement il la laisse glaner librement, aller avec ses servantes, il la protège, il lui donne à boire, maintenant il lui donne même à manger. Elle peut participer au repas. Ça, dans la culture du Moyen-Orient, le repas, c'est très très important. C'est pas seulement le fait de manger, c'est une bénédiction qu'elle puisse manger pendant la journée, mais en plus, le repas, c'est la communion. C'est le fait d'être ensemble. Elle fait partie de ce groupe de personnes. Elle a été acceptée. Ça nous rappelle que nous, on a la communion avec Jésus. Jésus, qui s'appelle aussi Emmanuel, Dieu avec nous, on a la communion avec lui. On partage avec lui un repas. Et lui, c'est lui qui a instauré justement le partage de la scène, du repas, de la communion. Et on nous dit qu'elle était, elle mangea et elle se rassasia et elle garda le reste. Non seulement elle est invitée, mais en plus, elle arrive à manger assez, elle est rassasiée et il lui en reste encore un petit peu qu'elle garde dans son sac avant d'aller retourner travailler. Puis, elle se leva pour glaner et Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes. Vous vous souvenez, elle était censée glaner dans les coins du champ, et puis là où les gerbes avaient déjà été coupées. Là, il dit à ses serviteurs qu'elle glane aussi entre les gerbes. Sans que vous lui fassiez d'affront. Vous ôterez même pour elle des javelles, quelques épis, que vous lui laisserez à glaner sans lui faire de reproches. Les serviteurs, ils doivent se dire, oh là, il y a quelque chose de louche, là. On doit la laisser passer n'importe où, et puis on fait semblant de couper, on laisse derrière. C'est ça, hein, qu'il demande, hein. Il dit, vous couperez même pour elle quelques épis, et puis vous les laisserez derrière, comme ça, hop, elle pourra les ramasser, c'est déjà tout coupé. Voilà, il se passe quelque chose, là. On voit vraiment que Ruth, là, n'est pas considérée comme une étrangère, comme une veuve. D'ailleurs, dès le départ, au verset 8, Boaz l'a appelée « ma fille ». La première fois qu'il lui parle, il dit « ma fille ». On voit, il y a plusieurs parallèles, hein, entre Boaz et Jésus, vraiment. On voit que Boaz aime Ruth, c'est clair. Et il l'aime en premier. C'est pas... Là, on connaît pas encore ce que Ruth pense de Boaz. Elle est reconnaissante, mais c'est tout. Mais on voit que Boaz aime Ruth en premier. Et de la même manière, Jésus nous a aimés en premier, avant qu'on réponde. Et puis on voit que la foi de Ruth l'amène à reconnaître la grâce de Boaz. C'est par la foi qu'elle est venue, et c'est parce qu'elle est dans cette démarche de foi qu'elle reconnaît que Boaz fait preuve de grâce envers elle, qui va au-delà. Et notre foi à nous, de la même manière, nous amène à reconnaître la grâce de Jésus. C'est par la foi qu'on reconnaît la grâce de Jésus. Et puis Boaz va au-delà de la loi. Plusieurs fois. Et surtout là, au dernier verset, il lui dit « Laissez-la aller entre les épis, coupez-lui même des épis pour qu'elle n'ait pas à le faire. » La loi disait « Vous ne couperez pas les angles, et puis quand vous êtes passé, vous ne repassez pas une deuxième fois. » C'est tout. Et c'était déjà pas mal, à l'époque des juges, si les gens respectaient ça. Boaz va bien au-delà. Et nous, de la même manière, Jésus a accompli la loi pour nous. Au regard des pharisiens, Jésus, il n'a pas accompli la loi, il a cassé la loi. Parce qu'il guérissait le jour du sabbat. En fait, il a été au-delà de la loi. Puisque la loi était pour la guérison des gens. Et le fait de ne pas travailler le sabbat, ce n'était pas le fait de ne pas guérir le sabbat. Parce que Jésus disait aux pharisiens, même votre âne, même votre bœuf, s'il tombe dans un trou le jour du sabbat, vous allez aller le chercher. Et de la même manière que Boaz va au-delà de la loi envers Ruth, Jésus a accompli la loi pour nous. Maintenant, ça peut paraître vraiment injuste que Ruth soit acceptée. C'est vrai, quand on regarde la loi, on a lu la dernière fois, les Moabites étaient rejetés. Dieu dit, Moab, c'est mon bidet, c'est mes toilettes. On a vu comment le peuple Moabite est venu au monde, c'était par un inceste. Et les Moabites sont vraiment pas les bienvenus en Israël. Et pire encore, on va voir après que Ruth va se retrouver à faire partie de la généalogie d'Abraham. Parce qu'elle va être par Jésus, oui, et puis par David, par Salomon. Toute cette lignée. Et dans Matthieu 1, on l'a lu la dernière fois, on va voir qu'elle est citée dans la généalogie de Jésus. Alors qu'elle est Moabite. Pour les Juifs qui lisent ça, ça peut paraître complètement injuste. De la même manière que pour beaucoup de Juifs, ils peuvent pas comprendre que vous soyez là et que vous ayez été accepté par Dieu. Vous n'êtes pas le peuple choisi. Mais Ruth appartient à la famille d'Abraham par la foi. Moi, ça me rappelle Jésus quand il a parlé avec les pharisiens, justement, de cette histoire de descendance. C'était en Jean 8, 44, page 114 du Nouveau Testament, et où ils discutaient de qui est le père, de qui, etc. Et Jésus leur dit, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Il a été meurtrier dès le commencement, il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Il leur répondait ça parce qu'il disait « Notre père, c'est Abraham ». Et Jésus leur dit « Non, non, votre père, c'est pas Abraham, votre père, c'est le diable ». Et en Galates 3,6, Paul met ça encore plus clairement. Il dit, voilà, 3,6 et 7, ainsi, Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice, la foi. Reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Ou dans certaines traductions, ce sont ceux qui ont la foi, ce sont ceux qui relèvent de la foi, qui sont les fils d'Abraham. Et pas selon la chair. Donc, Ruth a toute sa place dans la famille d'Abraham, puisqu'elle a eu la foi. Elle n'a même pas eu la foi en connaissance de cause, en venant elle-même de Bethléem. Elle a eu la foi en venant de Moab et en ayant en plus un témoignage qui n'était pas vraiment mirobolant par rapport au peuple de Dieu. Et pourtant, elle a mis sa foi en Dieu. Et donc, c'est pour ça que par grâce, elle peut faire partie de la famille d'Abraham. On voit que Boaz ici bénit Ruth à plusieurs reprises et de sept façons différentes. D'abord, il la bénit par la direction, en la guidant. Il lui dit, au verset 8, « Ne va pas dans un autre champ. » Et nous, de la même manière, Jésus nous a donné l'Esprit Saint pour nous guider. Parce que, on l'a vu au chapitre 1, quand on n'a pas Dieu comme guide, on fait des bêtises. On se retrouve en Moab. Quand on réfléchit par nous-mêmes, qu'on se dit « il y a la famine, il faut aller ailleurs », on ne se retrouve pas dans un lieu de bénédiction. Et donc, de la même manière que Boaz guide Ruth en lui disant « reste ici », nous, on a l'Esprit Saint pour nous guider. Et puis, Boaz bénit Ruth en lui donnant sa protection. Il interdit aux serviteurs de la toucher. Et de la même manière, Dieu nous protège. Et Dieu nous a aussi donné l'Église, la communauté, pour nous protéger, pour que les uns avec les autres, on puisse se protéger les uns les autres. Et puis Boaz donne à Ruth la providence. Il lui donne plus de grains encore que ce qu'elle aurait pu glaner elle-même. Et de la même manière, Paul nous dit, dans Philippiens 4, 19, « Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire en Jésus-Christ. » Puis ça rejoint ce que Jésus nous disait en Matthieu 6, quand il parlait de la parabole des lys, par exemple, la parabole des moineaux. Ne cherchez pas, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ou de comment vous allez vous habiller, parce que Dieu va pourvoir pour vous. Et puis Boaz donne à Ruth un encouragement. Ruth lui dit au verset 13, « Tu m'as consolé, tu as parlé à mon cœur. » Il lui a pas seulement donné de la nourriture, il lui a pas seulement laissé prendre plus physiquement, il l'a aussi consolé, il l'a encouragé à continuer, alors qu'elle est en pays étranger, alors qu'elle est loin de tout, qu'elle a tout perdu. Et pour nous, c'est un autre ministère de l'Esprit Saint, c'est de nous consoler, de nous encourager. Et Boaz lui donne aussi le don de communion. Il l'invite à partager le repas. Et nous aussi, on a ce don de communion avec Christ. Et c'est important d'en profiter de tous ces dons, et de ce don de communion en particulier. Si on n'a pas la communion avec Christ, si on ne profite pas de cette communion avec Christ, on peut pas avancer dans la direction de l'Esprit Saint qui nous est donné par Christ. Il lui donne aussi le don de l'accueil. Il dit à ses serviteurs, vous la laisserez glaner sans l'inquiéter. Et puis si elle va entre les gerbes, la rabrouez pas, laissez-la faire. Nous aussi, on a été accueillis par Jésus. Il nous a laissé glaner dans son champ. Et puis il lui donne la satiété. Puisqu'on voit qu'une fois qu'elle a mangé, qu'elle a eu la communion avec eux, elle avait plus faim. C'était bien. Ça suggère que spirituellement, je pense qu'elle a jamais eu de satiété quand elle était à Moab. Et là, alors qu'elle est pauvre, qu'elle a tout quitté, elle fait l'expérience de la satiété, je pense pas seulement physiquement, mais parce qu'elle est accueillie dans le champ de Boaz, et qu'elle a cette communion avec les serviteurs de Boaz aussi. Moi, ça me rappelle Jésus et la Samaritaine au puits, et quand Jésus disait « Si tu savais qui je suis, tu m'aurais demandé de l'eau à moi, et je t'aurais donné de l'eau vive, et tu n'aurais plus jamais eu soif. » Quand on va vers Jésus, on n'a plus jamais faim, on n'a plus jamais soif, spirituellement. Alors que le monde ne peut pas nous donner cette satiété spirituelle. Donc cette bénédiction que Boaz a donnée à Ruth et que Christ nous donne à nous. Cette bénédiction, la direction, la protection, la providence, l'encouragement, la communion, l'accueil et la satiété. Je continue à lire au verset 17. Elle glana dans le champ jusqu'au soir et bâtit ce qu'elle avait glané. Il y avait environ un épha d'orge. Elle l'emporta, rentra en ville et montra à sa belle-mère ce qu'elle avait glané. Et elle sortit aussi le surplus de son repas et le lui donna. Et sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui ? Et où as-tu travaillé ? Béni soit celui qui a fait attention à toi. » Elle voit toute cette quantité, en effet, ça fait beaucoup. C'est pas normal qu'elle rentre de sa première journée de glanage et qu'elle rentre avec un effa. Elle rentre avec un gros sac, plein de céréales. Sa belle-mère lui dit, c'est pas normal, t'as pas fait que ramasser les grains par terre, là. Il s'est passé quelque chose. Et elle lui dit, où as-tu glané aujourd'hui? C'est une expression qui a été utilisée à certaines époques dans l'église pour se... Quand on se rencontrait, et c'est une expression qui est bien, mais je veux vous encourager à l'utiliser. Où as-tu glané aujourd'hui? Où est-ce que vous avez glané aujourd'hui, cette semaine? Où est-ce que vous avez été chercher votre nourriture, spirituellement? Ah, est-ce que vous avez été glané dans les épîtres de Paul? Est-ce que vous avez été glané dans le livre des rois ou des chroniques? Où est-ce que vous avez été glané? Et Ruth lui répond... Elle raconta à sa belle-mère ce qui s'était passé avec lui, puis elle dit « Le nom de celui à qui j'ai eu affaire est Boaz. » Et Noémie dit à sa belle-fille « Qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il n'abandonne pas sa bienveillance envers les vivants et les morts. Cet homme est notre proche parent. » Lui dit encore Noémie « Il est de ceux qui ont envers nous devoir de rachat, c'est-à-dire qui est pour nous un rédempteur. » Vous vous rappelez Noémie, qui était partie, elle était revenue à Bethléem, elle était brisée. Elle dit, m'appelez plus Noémie, de ma grâce, appelez-moi Mara, amère. Elle était dans l'amertume, elle disait, Dieu m'a fait du mal, Dieu m'a rejeté. Et là, c'est la première fois qu'on entend dans sa bouche le mot béni. Qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il n'abandonne pas sa bienveillance envers les vivants et les morts. On commence à voir le fruit de la foi de Ruth, dans la vie même de Noémie, Noémie commence à voir que Dieu continue à bénir. Son cœur commence à changer par rapport à Dieu. On voit au début Noémie était vide, maintenant Noémie elle se dit bénie. Et au début Noémie était rebelle, on va voir que maintenant Noémie commence à avoir une espérance. Elle a une espérance parce que se dit, oula, mais Boaz, je le connais. Il fait partie de la famille de mon mari. Il est puissant, il est riche. Et visiblement, si Ruth est revenue avec autant que ça, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Elle n'a pas seulement été glanée dans le champ de Boaz, sinon elle n'aurait pas ramené tout ça. On voit qu'il y a vraiment deux équations, deux recettes là, qui donnent des résultats différents. Au début, avec Noémie, on voit que quand on a du doute, de la rébellion et de l'amertume, ça donne du vide. Ça, c'est la recette de Noémie. Vous mettez du doute, je suis pas sûr de là où je devrais aller. Peut-être que Moab, c'est pas mal finalement. De la rébellion. Non, je refuse de rester ici. Non, c'est vraiment pas une bonne idée. On va plutôt faire comme on a envie. Et puis de l'amertume. Dieu m'a fait du mal pendant que j'étais à Moab. Ça donne du vide. Et puis la recette de Ruth, c'est de la foi, de la soumission et de la gratitude. Et ça donne de la satisfaction. De la foi, Ruth a choisi d'aller à Bethléem alors que elle n'avait pas de raison de le choisir. Elle a choisi de faire confiance à Dieu. De la soumission, elle s'est soumise à sa belle-mère, elle s'est soumise à Boaz. Et de la gratitude parce qu'elle a reconnu la grâce dans les actions de Boaz et qu'elle choisit de remercier Dieu pour cette grâce. Et ça donne de la satisfaction. Et donc, Noémie dit, Boaz est un de nos rédempteurs. Faut revenir un petit peu sur ce que c'est qu'un rédempteur. En hébreu, c'est goël. Ça vient d'un verbe qui est gal, ça veut dire racheter, maintenir dans la famille ou dans le clan. Il y a plusieurs lois qui avaient été données dans l'Ancien Testament à ce sujet-là, concernant les rédempteurs. Entre autres, dans le Lévitique, au chapitre 25, verset 25, qui se trouve page 130. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, c'est-à-dire le rédempteur, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Donc ça, c'était une loi qui servait à éviter que les terres, que les biens se perdent. Le but était de garder un certain équilibre, d'éviter le capitalisme comme aujourd'hui. Et donc, si quelqu'un devenait pauvre, c'est quelqu'un de sa famille qui devait racheter les terres pour être sûr que les terres soient bien réparties entre les différentes familles, entre les différents clans, et que chacun puisse manger à sa faim. Ça va avec les lois aussi qui fait qu'une personne pauvre pouvait choisir de devenir esclave d'une personne plus riche pour avoir de la subsistance quand ils n'avaient pas de terre. Et qu'ensuite, cette personne pouvait être rachetée par sa famille et retrouver ses terres. Il y a toute une série de lois là-dedans, dans l'Ancien Testament, justement pour garder un équilibre en Israël et qu'il n'y ait pas des gens qui deviennent très riches et des gens qui deviennent très pauvres. Et puis dans le Deutéronome 25, on voit la loi du Lévirat, dont on a parlé déjà la semaine dernière, par rapport au fait, vous vous rappelez que Noémie disait à ses belles-filles, « Même si j'étais enceinte aujourd'hui, que je portais des fils, vous devriez attendre pour vous marier avec eux. » C'était la loi qui disait que si un homme mourait et qu'il n'avait pas eu d'enfant, son frère devait se marier avec sa femme, et que le premier enfant qui serait élevé sous le nom du frère qui était mort, pour donner une descendance à la personne décédée. Et ça aussi, c'était le rôle du rédempteur, donc du plus proche parent, de se marier avec la veuve pour donner une descendance à son frère. À son frère ou à son plus proche parent, qui n'était pas forcément un frère. Et donc Noémie a l'espoir que Boaz joue ce rôle de rédempteur. Pas seulement pour racheter les terres, mais aussi pour se marier avec Ruth et donner une descendance à Malon, en fait, au mari de Ruth, et donc donner une descendance à elle-même, à Noémie, puisque du coup, cet enfant serait considéré comme le petit-fils de Noémie. Mais elle dit c'est un de nos rédempteurs. On va voir en fait que c'est pas le seul. Je continue à lire au verset 21. Ruth la Moabite reprit. Il m'a dit aussi, attache-toi à mes serviteurs jusqu'à ce qu'il ait achevé toute ma moisson. Jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Il a dit, attache-toi à mes... Serviteurs ? Il a dit ça ? Ah, il avait dit servante, hein. C'est bien ce qui me semblait. Hein. Boaz avait dit, attache-toi à mes servantes, et j'ai dit à mes serviteurs de ne pas te toucher. Bon, il y a eu un petit peu un mix quelque part, là. Ruth a retenu, attache-toi à mes serviteurs. Noémie dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes. Et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Noémie la corrige. Elle sait bien que si elle va traîner avec les serviteurs, ça va pas forcément se passer comme il serait bien. Dans l'Église, c'est pareil, et Paul nous met en garde aussi. Ne vous attachez pas entre filles, entre garçons. Dieu va vous mettre à cœur qui il veut pour vous, s'il veut que vous soyez mariés. Mais faites attention, parce que si vous passez trop de temps ensemble ou que vous vous confiez les uns aux autres, ça va créer des sentiments. Ça va arriver à du physique. Parce que on est humain et ça fait partie de nos faiblesses. Boaz l'a mis en garde ici, elle a dit attache-toi, il a dit attache-toi à mes servantes. Et Noémie la remet en garde et dit reste, elle lui dit reste avec ses servantes. Et je dis pas que ça pour les jeunes. Je dis ça aussi pour les gens qui sont peut-être plus âgés, même qui sont mariés. Il y a des églises dans lesquelles il y a des affaires terribles. Il y a des fois même des pasteurs qui se retrouvent avec leurs femmes qui ont des affaires avec des anciens. Il y a des choses catastrophiques dans les églises. Et pourquoi? Des fois, simplement parce que la femme du pasteur dit « Oui, mais mon mari m'écoutait pas, alors que lui, il m'a écouté. » Ne laissez pas ces choses-là arriver. Ne laissez pas ces choses-là arriver, ça détruit beaucoup trop de choses. Si vous avez besoin d'une bonne étreinte, vous savez où en trouver. Si vous êtes un homme, vous allez voir Marco, ou vous allez voir Maurice, ou vous allez voir Marc, ils sont très bons pour ça. Si vous êtes une femme, vous allez voir Fédosie, ou il y en a d'autres qui sont très bien pour ça aussi. Si vous avez besoin de vous confier, confiez-vous les hommes aux hommes, les femmes aux femmes. Mais faites très attention, parce que ça va très vite de dévier. Et au verset 23, elle s'attacha aux servantes de Boaz. Donc encore une fois, on voit la soumission de Ruth. Elle a reconnu que sa belle-mère avait raison. Pour glaner jusqu'à l'achèvement de la moisson des orges et de la moisson des blés. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Donc la fin de la moisson des blés, probablement jusqu'à la Pentecôte à peu près, donc de Pâques, de la Pâque jusqu'à la Pentecôte juive, donc qui est 50 jours après. Je vais m'arrêter à la fin du chapitre 2 pour aujourd'hui, et vous allez voir, il va encore se passer plein de choses dans les deux chapitres qui restent. Il y a beaucoup de bonnes choses qui viennent avec Boaz. Donc on a vu aujourd'hui que Ruth a fait confiance à Dieu, elle a été glanée par la foi, elle est tombée dans le champ de Boaz et Boaz l'a bénie. Et plus encore qu'elle ne le croit, parce que pour l'instant elle sait qu'elle est bénie physiquement, elle peut avoir du blé, elle a la protection, elle a toutes ces bénédictions que j'ai citées, elle a la direction, la protection, elle a toutes ces bénédictions. Mais encore plus qu'elle ne le croit, puisque Noémie en sait un petit peu plus. Et on verra ça plus tard. Et vous, où est-ce que vous avez glané cette semaine? Si vous n'avez pas glané dans la parole, vous n'avez pas été nourri cette semaine. Et je veux vous encourager à revenir à la parole, à vous nourrir dans la parole. Je sais que Pierre le dit souvent, si je sais que vous lisez la Bible, je sais que tout va bien aller si vous lisez la parole. Si votre Bible est toute cornée et qu'il y a plein de marque-pages partout, c'est que ça va bien. Je veux vous encourager à revenir dans la parole, à aller glaner dans le champ de votre Goël, de votre Boaz, le champ de Jésus-Christ, et vous serez bénis. Et si vous avez jamais été dans ce champ, si vous n'avez jamais connu les bénédictions d'être sous la protection de Jésus, sous la direction de l'Esprit Saint, d'avoir toutes ces bénédictions qu'on peut avoir quand on a accepté Jésus, je vous encourage aujourd'hui à faire ce choix, par la foi comme Ruth l'a fait, et à aller glaner dans ce champ qui est la Bible, la parole de Dieu qui est une source de nourriture pour toute votre vie. On peut continuer à la lire, il y a toujours de quoi manger là-dedans. Et en plus de ça, comme Boaz disait à ses serviteurs de laisser des épis derrière, nous, Dieu, nous donne l'Esprit Saint pour nous guider dans la parole, pour qu'on trouve la nourriture dont on a besoin. Et si aujourd'hui vous voulez faire ce choix d'aller dans ce champ et de suivre Jésus, je vous invite à prier cette prière. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, Seigneur, que j'ai été séparé de toi par le péché, que depuis ma naissance, Seigneur, tout ce que je fais est loin de toi. Mon cœur est loin de toi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que c'est toi qui m'as aimé en premier, Seigneur. Dans la création même, tu m'as aimé. Dans la création même, tu as envoyé ton Fils pour résoudre ce problème de péché, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que tu m'invites aujourd'hui à te faire confiance, à avancer par la foi pour recevoir par la grâce, gratuitement, parce que je ne le mérite pas, ce salut que tu veux me proposer, ce salut par le sang de Jésus-Christ, ton Fils unique, qui est venu dans ce monde, qui a vécu une vie sans péché, qui a accompli la loi pour nous, et qui est mort sur la croix, qui a versé son sang comme sacrifice, afin que nous puissions être justifiés en nous soumettant à lui, Seigneur, et en lui faisant confiance pour notre salut, Seigneur. Je te remercie que, en me remettant en toi, Seigneur, en remettant ma foi en Jésus et dans le salut que nous avons par lui, je sais qu'au moment du jugement, quand toi, tu jugeras selon les œuvres, Seigneur, Jésus sera là pour intercéder. Jésus sera là pour dire « J'ai payé pour lui. J'ai payé pour elle. » Merci, Seigneur, que tu as ce chant, la Bible, ta parole, Seigneur, qui nous nourrit, qui nous rassasie chaque jour. Merci, Seigneur, que tu nous donnes notre pain chaque jour, afin que nous grandissions dans tes voies, dans la foi, Seigneur. Sois glorifié parmi nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.